c'est le journal maintenant avec Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Pierre et bonjour à tous. À la une de l'actualité, le grand débat de Souillac. Emmanuel Macron à la rencontre des élus locaux du Lot pour un nouveau débat qui, comme le premier, a duré plus de 6h30. Dans l'actualité également, le 10e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Sans connaître encore l'ampleur de ce 10e acte, les pouvoirs publics ont mobilisé les mêmes effectifs de sécurité que samedi dernier. Et puis de cette France, loin des centres de décision, à l'écart du pouvoir et des flux économiques, ce sera le thème que vous aborderez, Pierre, en compagnie de vos invités à 8h20.
Salomé Berliou et Erki Maillard, ils publient chez Robert Laffont Les Invisibles de la République. Ils décrivent la jeunesse de la France rurale, des villes petites et moyennes. Et dans ces zones, tout est plus difficile pour faire son chemin, pour tenter de réussir sa vie. Un constat inquiétant. Vous pourrez interroger nos invités en les appelant au 01 45 24 7000, Serge.
Dans l'actualité encore, l'attente d'une intervention de Donald Trump, le président américain pourrait annoncer dans la soirée le recours à une procédure d'urgence, une procédure qui pourrait mettre fin au shutdown. À la fin de ce journal, la troisième édition de la Nuit de la Lecture et à 8h20, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard au sommaire du tennis, du hand et du football féminin.
France Inter.
Nouveau débat marathon donc pour Emmanuel Macron. Pour la seconde fois en trois jours, le chef de l'État a échangé hier à Souillac dans le Lot, dans le cadre du grand débat national, pendant plus de 6h30 avec quelques 600 élus locaux venus de toute la région. Une performance oratoire largement mise en avant par une majorité de son auditoire, ce qui n'a pas empêché certains maires de le prévenir en affirmant que les mots seuls ne suffiraient pas à mettre un terme à la crise des gilets jaunes. Une joute oratoire suivie par notre envoyé spécial à Souillac, Cyril Graziani.
En 15 minutes, Christian Vanry s'est fait un nom. Devant un parterre d'écharpes tricolores, le maire de Saint-Cirgue a averti Emmanuel Macron « Il ne faut pas que ce grand débat devienne un grand bluff ». Plus posé à la fin, il explique que maintenant, il attend du concret.
C'est pas les discours d'aujourd'hui qui vont panser les plaies des gens qui sont en souffrance. Ça, il faut être clair. Hein. Je le pratique sur le terrain, je peux vous dire que les discours, ça sert à que dalle. Hein. Pour les gens qui souffrent au quotidien, qui n'ont pas un rond, c'est pas 7 heures de discussion non-stop ici, qui vont leur régler leurs gros problèmes pour trouver les sous supplémentaires, pour payer une facture, pour bouffer.
Karine Clément, elle, a été bluffée par la performance du président. Il est resté encore une fois près de 7 heures. Elle est prête à se mobiliser pour ce grand débat auprès de ses habitants, à Nocette, près de Rodez.
La population ne peut pas peut-être comprendre tous les échanges et tous les débats parce qu'ils sont très techniques, mais je pense qu'ils sont sensibles aussi de voir autant d'élus derrière le président. On est là pour faciliter le débat, pour faire entendre la parole de la population. Donc on va essayer de jouer ce rôle de facilitateur.
Pour Emmanuel Macron, ce grand débat, c'est un détonateur à intelligence collective. L'Élysée mise sur une à deux rencontres par semaine d'ici le 15 mars. Souillac, Cyril Graziani, France Inter.
Des grands débats sur fond de crise des Gilets jaunes, donc des Gilets jaunes qui entament aujourd'hui leur 10e samedi de mobilisation. Sans connaître l'ampleur des rassemblements qui ont lieu à travers toute la France, les pouvoirs publics ont de nouveau mobilisé 80 000 gendarmes et policiers sur tout le territoire, dont 5 000 à Paris, la capitale, où trois rassemblements ont été annoncés et déclarés en préfecture, Jean-Philippe Deniaud.
Il y aura deux manifestations, la première entre l'Étoile et les Invalides, la seconde entre les Invalides et la Place d'Italie, avec un retour aux Invalides. Deux manifestations et un rassemblement Place de la République, sans compter d'autres regroupements informels. Autant dire qu'il ne vaut mieux pas trop chercher à circuler dans la capitale aujourd'hui. Face à ce nouveau casse-tête du maintien de l'ordre, la préfecture a donc mis en place des périmètres neutralisés dans un large secteur autour de l'Élysée et dans le 7e arrondissement, celui des ministères si nécessaire. 5000 policiers et gendarmes avec, comme la semaine dernière, beaucoup d'unités légères pour intervenir rapidement, mais aussi les 8 véhicules blindés de la gendarmerie pour dégager d'éventuelles barricades. Les forces de l'ordre seront autorisées à effectuer des contrôles d'identité et des fouilles de sacs à tout moment, l'inquiétude ne tenant pas tant à la mobilisation des gilets jaunes qu'à l'infiltration de leurs manifestations calmes par des casseurs. On est toujours sur le fil du rasoir, confie un peu inquiet les responsables de la sécurité publique parisienne.
Jean-Philippe Deniaud. Dans l'actualité de ce samedi matin également, une nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla, soupçonné d'avoir utilisé ses passeports diplomatiques plusieurs mois après son licenciement. L'ancien conseiller à l'Élysée a donc été mis une nouvelle fois en examen hier soir, cette fois-ci pour usage de documents officiels non autorisés. Il n'a toutefois pas été poursuivi pour les accusations de faux documents administratifs formulées par le directeur de cabinet de l'Élysée. Remis en liberté hier soir après sa garde à vue sous le statut de témoin assisté, Alexandre Benalla fait savoir par l'intermédiaire de de son avocate qu'il se rendrait lundi devant la commission d'enquête du Sénat.
8h05, le journal. Serge Martin. Serge, à 4 mois des élections européennes, Marine Le Pen entre en campagne avec un premier meeting cet après-midi dans le Vaucluse.
C'est précisément dans la commune Le Thor, proche d'Avignon, que la présidente du Rassemblement National a décidé de prononcer un discours cet après-midi aux côtés de la tête de liste Jordan Bardella et du dernier transfuge Thierry Mariani. Dans le Vaucluse donc, terre d'élection de Marion Maréchal. L'occasion de faire le point sur la nièce de Marine Le Pen qui, bien que retirée de la vie politique, ne semble pas prête pour autant à se faire oublier, Maxence Lambrec.
Marion ne sait jamais sur quel pied danser, me confie un de ses amis. Un jour, directrice de son école, le lendemain, femme politique et parfois les deux dans la même minute comme dans sa vidéo de vœux.
Bonjour à tous, chers Français et chères Françaises.
Est-ce une adresse à la nation ? Non, d'abord une publicité pour son école.
Nous avons la chance d'avoir près de 80 étudiants qui aujourd'hui étudient auprès de nous.
Puis le naturel revient au galop pour entretenir la flamme.
Une page doit se tourner en France. Il n'est plus aujourd'hui admissible d'avoir à notre tête un gouvernement qui divise systématiquement les Français et refuse de les entendre.
Marion Maréchal garde le virus de la politique, mais elle n'a plus de communicants autour d'elle, ce qui explique ce côté brouillon, admet un fidèle, quand elle vient animer une conférence sur l'union des droites. Ce virus la démange.
Si je me laissais aller spontanément, je vous parlerais des gilets jaunes, de mes tweets compulsifs suite à une semaine d'AVC en écoutant le gouvernement et son mépris. Mais je vais m'en tenir au thème.
Marion Maréchal n'a en tout cas pas raté l'entrée en campagne de sa tante dimanche dernier et elle aura évidemment un œil tout à l'heure sur ce meeting vauclusien.
Maxence Lambrec.
Alors que les États-Unis entament aujourd'hui leur 29e jour de paralysie partielle des administrations, Donald Trump annonce, Serge Martin, lui, une intervention majeure.
Et c'est à 15h, heure locale, 21h, heure de Paris, que le président américain devrait faire cette intervention durant laquelle il pourrait mettre fin au shutdown le plus long de l'histoire de son pays en recourant à une procédure d'urgence. Procédure qui lui permettrait de financer la construction du mur qu'il souhaite faire mettre en place à la frontière mexicaine sans passer par le feu vert de son congrès. Washington, Gregory Phillips.
En vertu d'une loi de 1976, le président américain peut déclencher une procédure d'urgence qui lui permet de débloquer des fonds rapidement sans l'accord du congrès si la sécurité du pays est menacée. Tous les prédécesseurs de Trump l'ont fait. W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001 pour augmenter le budget de l'armée ou Obama lors d'une épidémie de grippe H1N. Donald Trump peut donc choisir de déclarer une urgence migratoire à la frontière sud, par exemple, en invoquant la nouvelle caravane de migrants partie du Honduras, et donc déclencher cette procédure qui lui permet de déployer plus de soldats à la frontière mexicaine et surtout de lancer les travaux de son mur sans passer par le feu vert du Congrès. Mais la Maison-Blanche sait que la démarche est risquée, car la Chambre des représentants la contestera sans aucun doute. Elle peut aussi être combattu devant les tribunaux. En clair, une telle décision ne garantirait pas la construction de la barrière promise par Trump, mais elle permettrait de suspendre provisoirement le shutdown le temps que la justice se prononce sur cette procédure d'urgence. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Un shutdown qui, rappelons-le, bloque depuis près d'un mois maintenant les salaires d'environ 800 000 employés fédéraux placés en chômage technique.
Retour en France, Serge, un rendez-vous à ne pas manquer ce soir pour tous les amoureux des livres.
Ce soir, Pierre, où va se dérouler la 3e édition des Nuits de la Lecture, l'occasion de célébrer la littérature sous toutes ses formes à l'occasion de l'ouverture nocturne de nombreuses bibliothèques, librairies ou bien musées. C'est ainsi que la librairie ICI, ouverte au mois d'octobre à Paris, a choisi de faire appel à Abdelmalik pour une soirée rap et littérature, Ilana Mouriosef.
Le sous-sol est normalement réservé aux livres jeunesse et à la BD, mais il est tout à fait aménageable. C'est l'astuce de Delphine Gueda et Anne Norvial.
On repousse toutes les tables, on a des gradins et on peut loger 200-250 personnes en aménageant l'espace de cette manière.
Leur idée, lorsqu'elles ont ouvert, c'est que la librairie ne soit pas un lieu intimidant.
Souvent, on imagine que c'est un temple, beaucoup de personnes n'osent pas rentrer et on veut essayer de casser cette image, d'amener le plus grand nombre à rentrer et à découvrir les textes.
On a interrogé des gens jeunes dans une école qui avait dans les 20 ans et on leur a demandé qu'est-ce qui vous ferait rentrer en librairie et ils nous ont dit le rap.
Pour la nuit de la lecture, elles ont tout naturellement pensé à Abdelmalik.
C'est assez simple, moi la littérature m'a sauvé la vie pour de vrai. Quand je dis sauver la vie pour de vrai, c'est mort ou vivant. Je me dis que ce qui s'est passé pour moi en rapport à la littérature, peut-être que ça peut se passer pour d'autres également. C'est la littérature qui m'a amené au rap.
Abdelmalik assure qu'il voit concrètement les effets de son engagement en faveur des livres.
Ça ça m'arrive tout le temps. J'ai fait un spectacle autour d'Albert Camus que j'ai tourné pendant 5 ans. Et à chaque fois, les gens venaient, j'ai jamais lu de livre. Grâce à vous, je lis. Ils achètent des livres, j'ai jamais acheté de bouquins. Et ça, c'est fabuleux.
Ce soir, Abdelmalik lira des textes de Camus, Amadou Kourouma et d'autres sur le thème de l'enfance.
Marseille, je marche souvent seul dans tes rues. Et trop souvent, j'y ai...
Ilana Moyosef et Abdelmalik, que vous pouvez entendre en ce moment. La nuit, la lecture, c'est au total 5000 événements à travers plus de 2 000 lieux en France. Programme complet sur le site www.nuitdelalecture.fr.